I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. J'espère que vous aimez les épisodes longs et denses. La rencontre avec David pour commencer l'année donne le ton de réflexions profondes sur la place de l'homme et la valorisation de la masculinité dans notre société. On y parle aussi, beaucoup, de sexe bien sûr, de pratiques et de préférences. Ce Français expatrié au Canada, de 34 ans, commence à narrer ses premiers souvenirs fortement liés à une amitié sexuelle avec un copain. De l'enfance à l'adolescence, tous deux vivent pleinement la découverte de la sexualité. Il raconte également sa puberté précoce qui n'a pas toujours été facile, les années collège puis lycée en tant que gentille et l'incompréhension du succès des bad boys. Pour d'ailleurs mieux comprendre les enjeux entre hommes et femmes, David va fréquenter à un moment le milieu des coachs en séduction qu'il qualifie désormais de problématique. David ponctue cet épisode d'anecdotes et de réflexions sur les relations entre hommes et femmes. Pêle-mêle, nous parlerons de ce qui a influencé sa sexualité, de son rapport aux amitiés masculines, de ses préférences en termes de relations plurielles, de sa pratique récente du burlesque, de ses recherches en sociologie au Canada autour des relations hommes-femmes et des violences conjugales, et son militantisme dans les milieux féministes. Vous l'aurez compris, un épisode passionnant. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'en profite d'ailleurs d'avoir votre attention pour vous rappeler qu'il existe un Discord du podcast. Le lien d'accès accompagne les notes du podcast. Je termine par vous souhaiter une merveilleuse et heureuse année 2023 que je vous souhaite heureuse. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec David qui a 34 ans et que je prends entre un train et un avion parce que tu repars bientôt au Canada. David, est-ce que tu peux partager ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Alors, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, je devais avoir aux alentours de 6 ans. C'était une soirée chez mes parents et puis ils avaient invité un couple d'amis qui avait deux enfants. Le garçon avait mon âge et la petite fille avait un an de moins, elle avait 5 ans. Évidemment, on joue au docteur. Donc, la spontanéité des enfants, on m'a dit il faut que tu te déshabilles pour qu'on puisse te sculpter. Et elle s'est déshabillée complètement, ce qui m'a surpris d'ailleurs.
Oui, tu t'attendais à ce qu'elle enlève son t-shirt.
Voilà, c'est ça. Elle s'est déshabillée.
Comme chez le médecin,
voilà, exactement. Mais elle s'est déshabillée complètement. J'ai vu son sexe ça m'a troublé.
Tu n'avais jamais vu une petite fille toute nue ?
Possiblement, si, évidemment, un petit cousin, une petite cousine, etc. Mais ça m'avait... j'ai trouvé ça beau. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir le « Eh, mais elle n'a rien, là, qu'est-ce qui se passe ?» Mais je me souviens, j'ai encore cette sensation-là d'avoir... Waouh, c'est beau, quoi. C'est super classe. Je sais pas, il y a un truc cool. Et ça, c'était le premier souvenir où je pense que ça a un peu switché dans ma tête sur c'est pas juste un corps et je peux trouver ça attirant, désirant.
Ça peut provoquer quelque chose.
Voilà, ça provoque quelque chose. Alors évidemment, c'est toujours un peu touchy qu'on porte qu'on se remémore ces souvenirs-là d'adultes vers les enfants.
Mais là, c'est le petit garçon.
Voilà,
qui
là,
se
c'est
rappelle.
Le petit garçon qui se rappelle. Et puis après, en fait, mon premier souvenir, alors. Un peu particulier aussi, je crois que c'était à peu près aux alentours de mes 7 ans, jusqu'à mes 15 ans à peu près, avec un ami, on couchait ensemble. Couchait ensemble pendant des années. C'était pas affectueux. C'est-à-dire...
Donc un ami, donc un copain de classe ?
Non, le fils d'amis de mes parents.
Que tu voyais régulièrement ?
Qu'on voyait très régulièrement, on dormait ensemble, etc. Comme des enfants, quoi. Je sais, alors j'ai plus de souvenirs de comment on en est arrivé à ça. Mais on a couché ensemble pendant des années. Alors, c'était pas affectueux, on s'est jamais pris dans les bras, on s'est jamais embrassé, on s'est jamais fait jouir aussi d'ailleurs, on n'a jamais éjaculé l'un l'autre. Je pense que c'était une découverte de la sexualité et de l'altérité à la fois de la. En fait, on découvrait nos propres corps à travers l'autre. Alors il y a eu une progression, hein. Je pense que ça a dû, comme beaucoup d'enfants, jouer à touche pipi, voilà. Et puis ah bah tiens, puis on s'est rendu compte que c'était agréable. Et on a continué et c'était devenu une vraie une routine quoi. On se voyait, on se mettait devant la télé, on jouait à la console et puis à un moment, ça te dirait pas, ok, on se faisait des fellations, voilà. Alors, je pense que ça a conditionné aussi mon rapport à la sexualité. Je suis un Pokémon de type O.
Explique-nous ça. Je me demande si ça va pas être l'exergue.
Pokémon de type O, ouais, ça peut être mal. Non, j'ai un rapport. Mon érotisme est vachement lié à l'eau.
À l'eau,
tu me mets dans une piscine, tu me mets dans une douche, dans un jacuzzi.
Tout ce qui est eau, finalement.
Tout ce qui est eau. Un corps mouillé,
ah, d'accord.
Ça va m'allumer. Je vais trouver ça, voilà. Parce qu'en fait, avec ce copain-là, on a dû s'envoyer en l'air dans toutes les piscines publiques qu'on a dû faire. Quand on était petit, entre nos 7 ans et nos 10 ans, on allait à la piscine avec nos parents. Puis à 10 ans, nos parents nous laissaient à la piscine et puis on y passait l'après-midi. Okay. Donc on allait nager, etc. Puis à un moment, ça te dirait pas, hop, donc on allait soit dans les douches, soit dans les vestiaires. Et puis on se faisait plaisir, quoi.
Alors, question un peu basique, pardonne-moi, mais est-ce que ça conditionne ton orientation à ce moment-là ?
Pas du tout. Okay. Pas du tout. Ça conditionne mon orientation si la sexualité est vue comme quelque chose d'affectif. Alors, je vais expliquer. En fait, pour ton émission, en remplissant le questionnaire, je dis que je voulais pas mettre d'étiquette. Oui. Je n'en mets toujours pas. J'aime beaucoup hétéroflexible. Je trouve ça fun comme expression. Mais je me définis pas comme ça. Enfin, il y a une très belle phrase de Michel Foucault que j'adore, qui dit « Si l'identité est un jeu, un moyen de créer de nouveaux rapports, des rapports amicaux, artistiques, sexuels, etc., alors elle est utile. Mais si l'identité n'est qu'un questionnement permanent, si on doit se questionner en permanence sur ceci est-il conforme à mon identité, il dit alors on se rapproche des virilités hétérosexuelles traditionnelles. » C'est-à-dire, en gros, excusez mon langage, mais la danse, c'est pour les gonzesses, c'est un vrai bonhomme ne fait pas ça. Et donc l'identité, quand elle permet de créer de nouveaux rapports, c'est utile. Et en fait, ces pratiques-là avec cet ami m'ont fait voir la sexualité comme quelque chose de simple, de très sain, qui peut
être
très ludique, très drôle, d'excitant, hein, aussi, parce que même si on s'est jamais fait jouir entre guillemets, tu vois, mais ça, c'était agréable, quoi, tu vois, c'est des souvenirs qui me font beaucoup rire. Une anecdote à ce sujet, on devait avoir 12-13 ans et puis on était en vacances à la mer avec nos parents. On va dans les bois, on commence à construire une cabane. Puis il y a des vieux qui passent en vélo à côté. Qu'est-ce que vous faites, les jeunes ? On construit une cabane. C'est bien ça, c'est cool, les petits jeunes. Puis on finit la cabane, puis on avait mis plein de fougères. C'était trop cool, notre cabane. Qu'est-ce qu'on décide de faire qu'on a fini ? On commence à se faire des fellations. Et j'étais en train de faire une fellation à mon pote, et les vieux repassent. Et ils font « ils sont partis, les petits scouts !» Et je me souviens m'être dit « les petits scouts sont en train de se sucer, là, tu vois ?» on a grandi ensemble. Alors moi, j'ai eu très vite, très jeune, un corps d'homme.
Oui, j'allais te demander. Ouais.
J'ai commencé à me raser à 11 ans.
Oh, wow.
Je suis très brun. Je suis né avec du duvet sur la moustache et sur le cou.
Okay.
Les médecins sont inquiétés. Il a une maladie. Et mon pédiatre qui a fait « non, il est poilu, en fait, c'est tout. »
C'est vrai que tu as les avant-bras fournis, quoi.
Ouais, c'est ça. Je suis assez... Alors, qui est encore aujourd'hui une source d'angoisse, hein, c'est la question de la pilosité, on pourra en reparler après, mais et pareil, au niveau de mon corps, j'ai eu des érections marquées, j'ai dû avoir mes premières éjaculations au CM2, 6e, quoi, tu vois.
Plutôt précoce.
Et
ton copain aussi ?
Non, justement, non. Donc lui était... vous voyez ça.
Ton corps à toi ?
Voilà, mon corps à moi. Je sais que la première fois où j'ai réussi à éjaculer, la fois suivante, quand je l'ai vu, je dis, mec, ça y est, j'ai réussi. Il me dit, ah bah vas-y, montre-moi. Et j'ai encore le souvenir de moi assis en train de me masturber et lui de regarder ça pas très loin, tu vois, de mon visage, et de me regarder et éjaculer, faire ah ouais. Et lui, ça arrivait 2-3 ans après, quoi, tu vois. Et je crois que le truc le plus intime qu'on a dû faire tous les deux, c'est qu'on a dû s'éjaculer sur le corps pour voir, ah bah qu'est-ce que ça fait. Une fois, on avait trouvé des capotes dans un sac, etc. Et faire ah, mais c'est quoi ça? Puis on était sous la tente, donc ah bah on lit le mode d'emploi, ah bah on se met ça sur le sexe, donc ce qu'on a fait, quoi, tu vois. On avait dû essayer la sodomie à ce moment-là, on avait 12-13 ans, tu vois, en mode oh bah vas-y, évidemment ça passe pas, mais on avait découvert tout ça, notre corps et le corps de l'autre. Et puis ça s'est arrêté, ouais, à notre entrée au lycée. Alors on n'était pas dans le même établissement, mais bah, quand on a eu une de nos premières copines, en fait, voilà, j'en ai jamais reparlé avec lui de ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
Oui, j'allais te demander si vous étiez encore en contact.
De temps en temps, une fois par an, genre, hey, qu'est-ce que tu deviens, quoi de neuf, lui, il a une famille maintenant, si ça se trouve, peut-être que lui s'en souvient pas ou a volontairement occulté le truc. Moi, j'y repense avec tendresse. Et drôle, quoi. Enfin, tu dis, les piscines, on a dû se faire cramer un nombre incalculable de fois. Je pense que nos parents, en tout cas les miens, ont dû nous cramer, mais rien dire. Et je crois que la dernière fois qu'on avait dû coucher ensemble, on avait 14-15 ans, peut-être chez moi, puis on discute, mais c'était la nuit, quoi. Puis, ah, vas-y, on le fait. Donc, on commence à faire un 69 et j'entends du bruit en couloir. Je fais, attends. Puis là, zoup, on glisse sous la couette, l'air de rien. Et là, mon beau-père ouvre la porte. Oui, qu'est-ce que vous faites? C'est pas l'heure, faut dormir. Oui. Nous, on était sous les draps. On n'est pas passé loin. Et voilà, et j'en ai gardé.
Donc, il y avait quand même un petit sentiment aussi, quand même, de faire quelque chose qui était un peu transgressif.
Oui, mais alors, la sexualité dans ma famille a toujours été ultra libre.
J'allais te demander.
Moi, ma mère m'a toujours dit, on a toujours pu en parler très librement. Mmh. Évidemment, avec le respect de la vie privée de chacun.
D'accord.
Elle m'a toujours dit, quand j'étais ado, tu veux des livres sur le sujet, je t'en achète. Là, t'as pas, c'est pas genre, ah bah tiens, je veux un roman de quelconque, ou oui, bon, plus tard. Non, sexualité, elle dit, c'est automatique, tu l'as. Le lendemain de ma première fois avec une fille, j'étais la voir, je lui dis, bon, bah maman, ça y est, c'est fait. Oh, c'est vrai. Oh, c'était bien. Enfin, non, ça me regarde pas. Enfin, ça a été quand même, non, c'était bien. Et elle s'appelle comment? Voilà. Ah, et elle a eu la patate toute la journée. Ah. Elle était tellement contente. Enfin, donc, c'était ça. Et même mon grand-père, qui est né en 1919, enfin, il est décédé maintenant, s'intéressait à ce sujet-là déjà quand ma grand-mère est décédée. On a retrouvé des ouvrages, La sexualité féminine, aux presses universitaires de France de 1969.
Ça doit être incroyable.
Alors qu'il venait d'un milieu agriculteur dans le sud-ouest de la France, donc pas du tout éduqué à ça, mais très ouvert sur le sujet. Là, je les ai récupérés.
Donc, une famille ouverte. Bienveillante dans l'accompagnement de la sexualité.
Ouais, ma mère m'a toujours dit, et ça m'a beaucoup aidé, m'a dit, ta première fois, t'as pas à être amoureux, t'as à en avoir envie, ta copine doit en avoir envie, ou ton copain, à en avoir envie, et surtout tu te protèges. Voilà, donc en fait...
Les fondamentaux.
Ouais, et contrairement à beaucoup de copains, et surtout de copines, où, à qui on avait dit, ah non, faut être amoureux, faut que ce soit le bon ou la bonne, et qui ont tout eu mal, et qui ont tout eu... Moi, ma première fois, pas de pression... Alors, ma première fois avec une fille, ça a été pas
très... Vous étiez au lycée ?
Moi, j'étais entre la seconde et la première. J'avais 16 ans et 4 mois. C'était le 7 août 2004. Alors, je m'en souviens parce que, en fait, c'était un festival.
D'accord.
Non, mais on s'était rencontrés 3 jours avant.
Ah oui.
Elle m'avait repéré... Un mois ou deux avant.
C'était un festival de musique ?
Ouais, on s'était rencontré à une soirée chez des amis et on me dit, bon bah là, il y a tel mec qui va aller chercher une fille, surtout tu la dragues pas parce qu'il est à fond sur elle. Je dis, ah non, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais même pas brocode, mais parce que, alors on en reparlera après sur la question de l'exclusivité, etc. Moi, ça m'a toujours, genre, quand je suis avec quelqu'un, bah bien sûr que ma copine, on peut la trouver belle et bien sûr qu'on peut la draguer, genre... C'est pas ma propriété.
C'est elle qui choisira.
C'est elle qui choisira, etc. Elle est suffisamment grande pour dire oui ou non. J'ai été un amoureux transi quand j'étais ado pendant longtemps. Déçu, évidemment. J'avais pas de relation. J'ai eu des relations assez tard. Mais on est dans une société où on nous dit qu'il faut être amoureux. Parce que c'est bien d'être amoureux.
Pour construire une famille.
Pour construire une famille, première fois, parce que c'est génial, etc. Ouais. Et Donc moi, j'y suis revenu de ça, mais voilà, elle, on s'était rencontrés, voilà, 3 jours avant, elle m'a repéré, elle m'avait repéré quelques mois avant, et le mec arrive avec cette fille, et je vois dans son regard à elle que, ah, il est là, me concernant, tu vois. Donc un peu troublé, alors on était à un bout de banc l'un de l'autre, on a mis 1h30 à se rapprocher, mais littéralement 1h30, pour que finalement nos petits doigts se touchent et que... Donc on a fini dans une toile de tente, on aurait pu coucher ensemble ce soir-là. Enfin moi, genre, je donnais tout à ce moment-là, quoi. Genre, et là, bah, elle me plaît, elle est trop belle, elle est trop gentille, son odeur est incroyable, un mélange de patchouli, d'encens et de cigarettes, mais ça sentait pas le tabac froid, je trouvais ça que ça sentait bon, ça sentait elle. Et puis elle me dit non, j'ai mes règles, sûrement une excuse, voilà, mais il n'y a pas de problème. Et puis 3 jours après, on doit aller à un festival. Et puis on se retrouve là-bas, on passe la soirée à se dévorer, à se rouler des pelles. Puis à un moment, je dis, écoute, j'ai envie de toi. Elle me dit, bah, moi aussi. Et donc, il y avait un terrain de foot où il y avait le festival, un terrain de foot où il y avait le camping et un terrain de foot où il y avait rien. Un terrain de foot en plein mois d'août, cramé par le soleil. Et donc, on a essayé de trouver un coin tranquille. J'ai mis mon pull par terre. On s'est allongé. Alors, je suis pas très romantico-romantique, mais je m'étais dit, ah, il y a beaucoup d'étoiles quand même. C'était très beau. On a juste vraiment avec la musique. Et puis, on commence à le faire. Et alors, je me souviens la première pensée qui m'a traversé l'esprit au moment où je la pénètre. Mm-hmm. Double pensée, vraiment. Je me dis, ah ouais, tout ça pour ça. Et dans le même temps, je me dis, ah ouais, tout ça pour ça. Quoi. Comme dit, le sexe, c'est la meilleure et la pire drogue du monde. Parce que tant que tu ne l'as pas fait, tu sens que ça a l'air cool, mais tu ne sais pas. Et une fois que tu l'as fait, c'est foutu. Tu vas avoir besoin de ça toute ta vie. Enfin, j'espère en tout cas que j'aurai besoin de ça toute ma vie. Et donc, voilà, de me dire...
C'était
mais en
sa
fait,
première fois aussi.
Alors, elle m'avait dit que c'était sa première fois. Alors, ce qui est drôle, il y a plusieurs événements qui ont conditionné vraiment ma sexualité après. C'est qu'au moment où j'ai éjaculé et on se regardait... Et en fait, le groupe qui passait à ce moment-là, c'était, alors, je ne sais pas s'il existe toujours, il s'appelle Les Fils de Tepu. Et ils chantaient la chanson, je ne l'invente pas, Awalpé.
Okay.
Et donc, on se regardait et on entend « Oh, Awalpé, Awalpé, Awalpé » toute l'année. Et là, on a explosé de rire tous les deux. Et en fait, c'est quelque chose qui est resté, même 20 ans plus tard. Souvent, là, après ma première fois avec une nouvelle partenaire, j'explose de rire à la fin. Parce que il y a ce tout ça pour ça. Parce que dis, on fait quand même des caisses pour, j'aime beaucoup cette expression de Gaspard Proust, faire des credos dans une impasse. expression qui me fait énormément rire. C'est pas glamour, mais on en fait des caisses, on dépense une énergie folle pour se retrouver dans ce moment où et là. Ton sexe qui devient tout flasque, t'as des fluides partout, des fois t'es dans une position complètement improbable, et tu te dis mais
t'es rouge,
et tu te dis mais quelle débauche d'énergie pour un truc en fait qui est d'une simplicité mais abyssale, et donc voilà, donc on a fini. J'étais en train de me rhabiller, de m'essuyer un peu, et puis elle s'est rhabillée vite, et puis alors elle parlait pas beaucoup, c'était un peu une taiseuse, et je me souviens qu'elle regardait un peu en direction du festival, un peu l'air pensante, et sans me regarder, elle me dit, tu sais, j'avais déjà couché avec un garçon avant toi, il y a un an, mais il m'a pas trop respecté, et toi tu l'as fait, donc je dirais que ma première fois c'est toi. Alors, ça a duré un mois et demi, cette histoire.
Okay.
Elle m'a quitté très rapidement pour se remettre avec un mec qui ne la respectait pas, qui... bref, je n'ai pas compris. C'était un peu douloureux, très douloureux.
Un chagrin d'amour ?
Ouais. Bah oui, parce que... Et ça a aussi conditionné mon rapport à la sexualité. Contrairement à mes amis, ma meilleure amie est en couple avec le même homme depuis qu'elle a 15 ans. Ça fait 20 ans, l'année prochaine. 2 enfants, très heureux.
J'ai une très, très bonne amie qui écoute d'ailleurs souvent ce podcast. C'est le cas aussi, ça va faire plus de 20 ans.
Voilà.
Très donc, admirable.
Voilà, c'est cool, c'est très bien, c'est son mode de fonctionnement à elle, c'est chouette. Mes meilleurs amis ont pu prendre le temps de découvrir la sexualité. Moi, j'ai connu ma copine 3 jours avant, on a couché ensemble 3 jours après, on l'a refait une fois chez mes parents quand ils n'étaient pas là, etc. Ce qui a aussi influencé ma sexualité parce que première fois qu'on était dans un lit, on commence, c'est chouette, c'est cool, moi je suis bien. Là, on fait des préliminaires, enfin, même si ça fait partie de la relation sexuelle, mais bref, voilà, elle me fait une fellation, je la lèche, et puis très vite elle me dit viens, viens, donc je viens sur elle.
Et alors la première fois justement que tu fais un cunnilingus,
Alors, je trouve ça cool.
Tout ça pour ça.
non, je trouve ça cool. Alors, elle s'épilait pas, elle se rasait pas, donc c'était au naturel. Donc, j'étais là, c'est pas très agréable quand même de lécher des poils, je trouve pas ça cool. Ma deuxième copine s'épilait intégrale, et là, je me souviens, la première fois, je descends, et je relève la tête immédiatement, les yeux en mode, ah, c'est fantastique. Et donc, voilà, j'adore ça maintenant. Comme j'ai dit, je suis assez poilu, je m'entretiens au niveau intime, mais je ne suis pas fan du tout chez mes partenaires. Voilà. C'est-à-dire que si c'est pour un soir, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut, il faut le rappeler. Hein. Je pense que vous tombez sur une partenaire qui ne s'épile pas, c'est no okay. comment.
Bien
genre,
sûr.
Voilà. Par contre,
ma préférence,
j'aime pas ça. J'aime pas ça. Si c'est pour un soir, je me dis, bon, allez, c'est pour un soir. Sur le long terme, je vais en discuter. Je vais dire, écoute, j'aime pas ça. Mais encore une fois, beaucoup de débats dans la société sont très binaires. Donc, je ne suis pas genre, si je tombe sur une partenaire qui va me dire, hey, je suis désolé, j'ai pas le temps, j'ai une repousse de 15 jours.
Oui.
Come on, genre, ça va, c'est pas grave. Par contre, si je tombe sur une femme qui va avoir 6 mois, 1 an de poils et qui, je ne vais rien lui dire sur le moment. Après, je vais dire, juste, moi, c'est pas ma préférence, j'aime pas trop ça. Lécher des poils, je trouve pas ça cool. Chercher le clitoris au milieu des poils, je sais où c'est, mais ça m'énerve. Donc voilà. Mais voilà, chaque personne est libre de son corps et de faire ce qu'elle veut. Voilà, moi, je suis tombé sur une partenaire qui m'a dit, écoute, tu peux avoir des poils partout sur le corps, je m'en fous. Par contre, j'adore les mecs qui se rasent sous les bras.
Ok,
donc la fois suivante, je suis arrivé surprise et elle fait « Ah, je trouve ça trop cool !» J'ai repris un pote l'été dernier qui voit passer une femme dans la rue avec des poils sur les bras, sur les jambes. Il fait « Ah, c'est dégueulasse !» Je fais « Oh, calme-toi quand même, quoi !» Genre, tu prévoyais d'y aller ?« Ah bah non, machin, mais moi, j'aime pas ça !» Moi non plus, mais je garde ça pour moi.
Oui, puis surtout...
Alors, elle l'a pas entendu, mais je dis « Écoute, c'est son corps, etc. » Et voilà, moi non plus, les poils sous les bras chez les femmes, les poils sur les jambes, c'est pas mon truc du tout. Un peu une vision un peu plus classique de la féminité, mais genre, c'est son corps, c'est... voilà. Donc voilà, donc cette première fois dans
Ce discours, il est très entendable d'ailleurs. Chacun a ses préférences. Tant que, voilà, après, tu n'altères pas la liberté de l'autre à lui imposer ta vision et à lui dire, comme j'imagine que tu as des préférences peut-être de corpulence, de type de corps, etc. Sûr. Et ça, c'est encore une fois, ça te regarde.
Bien sûr. Mais voilà, mais comme moi, hein, je peux recevoir pas des critiques, mais de « Ah, est-ce que ça ne te dirait pas d'essayer
d'enlever
des poils ?» Moi, je suis assez open là-dessus.
Sûr,
il y a pas
des femmes, des hommes qui aiment les corps glabres et c'est OK.
Mais il y a une différence. Moi, ado, je l'ai très mal vécu, ça, parce que... Enfin, tu te dis, ok, je suis sale, les filles ne vont pas m'aimer. Et l'adolescence, qui est quand même une période assez importante dans la manière de tu vas te construire psychiquement, etc. Bah, pendant longtemps, ça a été un complexe. Quoi.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, vu que je me suis construit comme ça, cette phobie-là, c'est pas une phobie, c'est cette peur-là revient régulièrement. Qu'on me juge là-dessus.
Mais tu te mets en maillot de bain sans problème
Non. J'ai me mettre torse nu, j'ai mis extrêmement longtemps avant de le faire. De toute façon, j'aime pas la chaleur, donc l'été en général, j'hiberne. alors que le froid, j'aime bien. Mais j'ai toujours un peu. Parce que j'ai du poil sur les épaules. Alors j'ai essayé d'épiler, mais sous chaque racine, ça me fait un bouton blanc. C'est mort.
Après, t'as des solution un peu plus définitive, mais est-ce que tu as envie d'en passer par là?
J'ai pas les moyens, surtout.
Et puis surtout, c'est pas très agréable, quoi.
Non, et puis j'ai une ex-copine qui m'avait dit, tu vois, avant de te rencontrer, je préférais les corps d'hommes sans poils, puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un problème et que c'est de la réciprocité.
Mais ça reste quand même ta pilosité, quelque chose à 30 ans passés qui est toujours un questionnement.
J'y pense.
D'accord.
En fait, ça va dépendre de mon état d'esprit. Quand je suis dans une bonne période, que je suis bien, je vais avoir tendance à l'oublier. Si je suis dans une période comme là depuis 2 ans où je suis sorti d'une relation très compliquée, très douloureuse et toxique, disons le mot,
un peu plus fragilisé, quoi.
Ouais, là tu te dis ouais, mais en fait ça va pas. Le ventre, j'ai une famille de diabétique, pas de naissance, mais des trucs, on a des prédispositions. Donc les tablettes de chocolat, je ne les aurai jamais. Mais un ami qui fait beaucoup de muscu me disait non, mais c'est pas tous les hommes qui l'ont. Il y a des hommes qui ça va être dessiné, d'autres ça va naturellement, d'autres ça va pas l'être. Toi, ça ne le sera pas. Donc je fais du sport, je m'entretiens, mais je ne les aurai pas. Mais il y a des moments où voilà, si je fais pas attention, j'ai le ventre qui gonfle. Okay. J'ai le dad bod, comme ils disent. Je l'ai. Mais après, il y a des fois où moi, j'ai l'impression de l'avoir. Je fais de la dysmorphophobie, en fait, hein, tout simplement. Mmh. Et je vais l'avoir et de me dire, je vais rentrer le ventre et en permanence et me dire, ah non, c'est pas beau.
Parce que la minceur, c'est synonyme de beauté pour toi ?
Non, pas nécessairement. En fait, ce que je disais à une copine, je disais, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être tonique. Je m'en fous d'être une armoire à glace, mais bah là, ça fait 2 ans que je fais du sport 5 fois semaine, des burpees, des squats, des trucs comme ça chez moi. Je me sens bien, ce qui me permet de manger derrière n'importe comment et de faire « ouais, en fait, ça va ». Quoi. Après, chez mes partenaires, oui, je préfère les femmes plus minces, mais j'ai eu des partenaires qui avaient des rondeurs et genre aucun problème. Quoi. Enfin, c'est un tout, en fait. J'ai pas des critères précis. Alors oui, j'ai mon idéal type, évidemment.
C'est quoi ton idéal type ?
Brune, un peu. Alors, j'ai écouté l'autre jour, parce que j'écoute les vieux épisodes maintenant d'On the Verge, et l'épisode 3. Mathieu.
Oui.
Voilà. Et j'étais, en fait, je me suis beaucoup reconnu dans son témoignage. Et genre, moi, j'aime beaucoup les femmes espiègles. Le côté un peu, ok, on va jouer, mais qui vont te tendre des perches, qui vont... j'ai rien contre une drague très genrée, l'homme plus actif, l'homme plus passif, mais en fait, j'aime quand c'est fluide, quand il y a un jeu. J'adore le mot de badinage. Le badinage, je trouve ça trop cool. Et en fait, mes meilleures relations, quel que soit le physique de ces femmes-là, etc., quel que soit le milieu d'où elles venaient, quel que soit leur background, peu importe, c'était des femmes qui jouaient. Qui vont être un peu espiègles, qui vont te taquiner, mais il y a un jeu, il y a un truc de non-donnant. J'ai tiqué il y a 2 mois. En fait, depuis que je suis en âge de comprendre le sexe, j'ai toujours été attiré par les femmes bi.
Okay.
Ou les femmes qui aimaient coucher avec des femmes, ou avoir des relations avec des femmes, peu importe qu'elles mettent une étiquette ou pas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait...
Des femmes donc ouvertes.
Ouais. Parce qu'en fait, alors oui, au-delà du fantasme, oui, je vois deux femmes se rouler des pelles, je vais être là, c'est tellement beau. Mais
si elles sont épilées, alors là,
elles savent. Mmh. Elles savent ce que c'est que d'aller séduire une autre femme. Et en fait, quand tu vas aller les séduire, elles savent que c'est pas simple. J'ai une amie qui a couché avec une femme très récemment, et elle me dit, j'aimerais bien recommencer, mais je vais attendre que l'opportunité se présente parce que je ne serai pas draguée. Et je lui dis, bienvenue dans notre monde. Bienvenue dans le monde des mecs, où tu te prends des râteaux et tu te prends des râteaux méchants. Parce que dans nos sociétés, même si c'est en train de changer, c'est heureux.
Méchant ?
Ah ouais. Non, mais t'as vu ta gueule ? Non, mais jamais je sors avec toi. Si. Des, okay. Ados, hein, plus ados que. Mais voilà, on en reviendra après sur la question de la masculinité. Mais en fait, c'est pas être un homme qui est un problème, c'est la valorisation d'un certain type de masculinité. Et c'est aussi pour ça que je pense que le consentement est, en tant que concept est problématique. Pas évidemment de s'assurer que l'autre, et quand tu vas coucher avec, est d'accord, même avant, hein, l'embrasser, etc., la toucher, évidemment.
Tu fais partie de ces hommes qui demandent l'autorisation ?
Maintenant, oui.
Ok.
Maintenant, oui, parce que je suis un gentil garçon. Je suis un gentil, dans le fond. Malgré.
Mais
voilà,
même en surface.
Même en surface, d'accord. Ça merci, se voit. Ça me touche. Je suis un gentil. Ado, j'avais beaucoup de mal. Ma première copine me quitte au bout d'un mois et demi pour un autre mec qui, lui, était plus dans une virilité que le bad boy.
Voilà,
le petit dealer du coin, un peu babtou, en mode « vas-y, je fume des pétards et c'est cool », etc. Mais...
C'est pas du tout condescendant.
Pas du tout. J'en ai pas, même 20 ans après, j'en ai toujours...
Pas du tout la rage.
On en a gros. Mais voilà, et puis ça fonctionnait pas. C'était... j'y arrivais pas. Et puis à un moment, à 18 ans, j'arrive à une soirée, je me sépare de ma deuxième copine, on est à distance, bon. Mais on se sépare d'un commun accord au téléphone, on dit voilà, on est loin, puis ça marche pas, puis ok. Et je raccroche et je fais, merde, mais en fait, ça m'emmerde. En fait, non, j'avais pas envie que ça se termine. Bon, bah, il y a cette fille-là dans la soirée, je lui ai juste dit bonjour, elle est mignonne, j'ai pas envie de finir la soirée tout seul. Je vais la draguer.
Où j'y vais, quoi.
Et je m'assois à côté d'elle. On s'est juste dit bonjour, voilà, je m'appelle David. Et je m'assois à côté d'elle et je lui mets la main sur le genou. Et là, je me dis, je vais me prendre un aller-retour et ce sera mérité. Genre, au nom de quoi tu vas la toucher alors qu'elle n'a rien demandé.
Après, tu joues, tu étais prêt à...
Ah, mais la première fois que j'étais en boîte de nuit à 16 ans, ça a été... Mon monde s'est écroulé. Je me dis, ah bah oui, s'ils dansent collés serrés, c'est qu'ils doivent se connaître. En fait, non, ils ne se connaissaient pas. C'est juste que monsieur est arrivé, s'est collé à elle et madame a dansé. Et là, j'ai fait... Oh là là, alors que moi avant c'est ok, tu fais connaissance, tu discutes, tu montres que t'es sympa, et puis quand elle te montre
que des signaux qui font que
au bout de 4 heures, tu peux y aller.
N'oublions pas qu'il a mis une heure et demie à toucher le petit doigt de sa première amoureuse.
C'est ça, mais c'était super cute. Hein,
ah, bien sûr. Alors,
mais voilà, et donc je me mets la main sur le genou et elle m'attrape la main et elle me fait un grand sourire. Et là, t'as 18 ans de drague qui s'écroule en mode, bah ok, en fait, ah, je savais pas du tout comment ça fonctionnait.
Ça pouvait aussi se passer comme ça.
Ça pouvait se passer comme ça. Donc là, on s'isole dans une chambre, on se roule des pelles, on se chauffe toute la soirée. Elle me dit, ok, on couchera ensemble, mais pas ce soir, on se reverra plus tard, pas de problème. Et là, j'ai réenclenché le mode gentil garçon, très prévenant, trop prévenant peut-être, je sais pas. Et donc, bon, on a couché ensemble, c'était génial. Et puis elle m'a largué après en me disant non mais c'est bon laisse tomber t'es trop chiant parce que j'étais trop prévenant,
trop mignon, trop gentil.
Et donc ça a pris encore un peu de temps. Et alors un jour je me suis tapé un délire un soir à me dire est-ce qu'il existe des hommes qui apprennent à draguer à d'autres hommes. Et j'ai découvert le joyeux milieu des coachs en séduction. Alors Je vais expliquer un peu parce que ce milieu est très problématique à bien des égards.
Donc là, t'es jeune adulte, quoi.
J'ai 21, 22
ouais,
ans.
Ouais, c'est ça. T'as le lycée derrière toi, tu commences tes études.
Voilà, la fac.
Où tu es encore. Hein.
Ouais. Oui, j'ai fait un doctorat, donc
dans la
voilà.
Exactement. Mais il aime ça. Mais d'accord, donc là, t'as déjà quand même un peu les bases de ta sexualité.
Oui, j'ai eu quelques partenaires.
T'as eu quelques partenaires. Voilà. Ok, très bien. Donc tu découvres le milieu du coaching en séduction. Et si ma mémoire est bonne, donc c'était il y a 10-15 ans, mm-hmm, c'était le boom des pick-up artistes, comme on les appelle. Ok, donc vas-y, je t'en prie.
C'était le tout début. Voilà, je passe la nuit à aller de site en site, à lire plein de trucs. Alors, ce milieu est très problématique à bien des égards.
Pourquoi ?
Il y a un coach, je ne me rappelle plus son nom, mais qui avait dit « Moi, je ne suis pas là pour vous dire les choses telles qu'elles devraient être. Je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. » On peut se plaindre des règles du jeu, de la séduction, etc., dire, trouver que c'est genré, que c'est sexiste, etc. Qui, malheureusement, pour une majorité de monde, ça fonctionne comme ça. Il dit « Je vais vous apprendre les règles pour après, vous puissiez les dépasser. » Voilà. Il y avait une réflexion en plus de fond. Ça n'empêchait pas des propos sexistes par moment. Même moi, à l'époque, j'étais là, c'est abusé un peu quand même, là, ce qu'ils disent, etc.
Mais on recontextualise, c'était il y a 10-15 ans.
C'était il y a 10-15 ans.
On avait moins ce regard sur, tu vois, une séduction plus paritaire, égalitaire, respectueuse.
C'est ça.
Je n'excuse pas, j'essaie de contextualiser.
Voilà, c'est ça. Mais j'étais critique déjà à l'époque. Il y avait des trucs qui me semblaient un peu touchy, qui me semblaient genre, c'est quand même problématique, mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien dans juste ça a permis d'enlever un poids de me dire ah ouais ok en fait genre non alors les femmes viennent de Vénus les hommes de Mars c'est connerie voilà quand un coach disait les femmes sont comme ça les hommes sont comme ça je suis là non
puis surtout les femmes
voilà les femmes néanmoins ça m'a permis un peu de, par exemple, j'étais un pro adolescent de l'obsession amoureuse. J'ai été amoureux 4 ans de ma meilleure amie, à en être malheureux comme les pierres, parce qu'évidemment ce n'était pas réciproque, à me faire du mal, parce que j'étais au fond du trou et que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Fausse croyance, t'es gentil, donc elle va forcément tomber dans tes bras.
T'étais friendzoné, quoi.
J'étais friendzoné, mais il y a plein de choses qui vont pas dans les coachs en séduction, même si, comme on disait, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas eu MeToo.
Exactement.
Il y avait déjà des raisonnements, des raisonnements. La pensée féministe était foisonnante.
Évidemment.
Et ça date pas d'il y a 10 ans.
Mais t'avais pas tous ces comptes Instagram qui permettaient l'éveil et de nourrir, tu vois, l'éducation.
Bien sûr. Mais ça m'a fait du bien de... pas d'avoir des techniques, mais d'avoir des réflexions là-dessus. Parce qu'en fait, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, le problème, j'entends souvent « Ah, les hommes, ceci, les hommes, cela » ou « Les femmes, ceci, les femmes, cela ». Je ne pense pas que la question ce soit de dire « Les hommes ou les femmes ». Le problème, c'est quelle masculinité on valorise. Ma directrice de recherche parlait dans une émission il n'y a pas longtemps sur les personnes toxiques.
Donc tu fais des recherches en sociologie,
voilà,
juste
c'est
pour
ça,
pareil, c'est ça. Contextualiser.
Et elle faisait une intervention sur les personnes toxiques et elle disait, moi je ne connais pas de personnes toxiques. Il y a des gens qui sont malveillants évidemment, mais elle dit par contre les relations toxiques, des dynamiques toxiques, ça oui je sais ce que c'est. Il y a des personnes qui vont être adorables mais qui prises dans un certain contexte, en fonction d'où elles sont dans leur vie, vont être toxique.
Et on est toujours toxique pour quelqu'un.
On est toujours
dans
toxique.
Dans sa vie.
Voilà, c'est exactement ce qu'elle a dit. On est dans une société où c'est un peu le... Alors, pas pour tout le monde, évidemment, ça dépend de tas de choses, mais on est un peu dans ce credo, l'homme propose, la femme dispose. Ce qui est du consentement, mais ce qui n'est pas très féministe.
Ouais.
J'ai des copines qui se disent féministes, qui se disent déconstruites, qui se disent critiques, etc., qui vont dire, je me souviens d'une amie, elle se tournait autour avec un copain, les deux savaient qu'ils se plaisaient, ils ont mis 3 mois avant d'eux, et puis genre la soirée où ils s'embrassaient, juste avant, j'ai été la voir, je dis, bon alors, vous faites quoi là? Vous bougez un peu. Et elle me dit, ah ben non, c'est un homme, je vais le laisser un peu galérer, voilà. Fatalement, dans une société où on va considérer que c'est à l'homme de faire le premier pas. Alors, les femmes séduisent, mais c'est plus, pour beaucoup, j'ai l'impression, une séduction passive. Ils vont se faire belle, vont s'habiller bien, etc. Et puis après, moi, j'ai des copines, « Ah, il me plaît trop, machin, mais il ne réagit pas. » Je dis, « Mais qu'est-ce que tu as fait pour... » « Ah, ben, je lui ai fait un sourire et je l'ai regardé. » On est des hommes, on n'est pas... On n'est pas... Beaucoup d'hommes n'ont pas de lecture fine de la vie en société, etc. Il y en a qui le sont, évidemment, mais il y en a beaucoup, ils ne voient rien. Et puis, surtout quand
tu
es jeune.
Et puis, il y en a qui ne sont pas réceptifs aussi.
Enfin, voilà.
Tu vois, tu peux aussi sourire et faire un appel du pied à quelqu'un. Et si cette personne n'est pas disposée, n'a pas envie, n'est pas dans le moment dans sa vie, il faut accepter ça aussi. Et c'est vrai qu'on a ce truc un peu dans notre société, justement, dont tu parlais, où les femmes... Les hommes proposent, les femmes disposent. Repartir au début, quand tu te, si tu te, évidemment, si tu te maquilles le matin, pour qui le fais-tu ? Est-ce que tu peux le faire aussi pour toi, pour tes collègues, pour ton mec, pour une potentielle rencontre ? Mais c'est important aussi de replacer tout ça, la séduction. Qu'est-ce que ça veut dire et pour qui tu le fais, quoi ?
Bien sûr. Moi, j'ai une copine qui me dit chaque fois que je pars en date. Je suis intégralement épilé, je suis parfaitement baisable. Ce qui ne veut pas dire que je vais baiser avec le mec à la fin de la soirée.
Oui, et puis c'est sa vision à elle d'être baisable.
Exactement, parce qu'elle, elle aime se faire jolie avant d'aller à une date, quand bien même elle ne terminera pas la soirée avec l'homme, parce que ça lui fait plaisir. Quand on considère que c'est à l'homme de faire le premier pas, il ne faut pas s'étonner derrière que bah, des hommes se disent « je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas ». Donc les coachs... À cette époque-là, j'étais pas en mode religion. J'ai lu beaucoup de livres. Ça m'a toujours beaucoup angoissé, à la fois beaucoup fasciné, intéressé. J'ai toujours eu une curiosité de l'autre avec un A majuscule. Et les coachs m'ont permis un peu de me dire, ok, de dépassionner un peu le truc, de dire, ok, attention là sur l'obsession amoureuse. J'avais lu un très très bel article. C'est une femme qui l'avait écrit sur un site de coach et qui disait, ça arrive. C'est pas grave. Vous voyez pas comme quelqu'un de mauvais. Souvent, c'est qu'on stagne dans sa vie professionnelle, dans ses loisirs, dans ses relations amicales. Et là, une personne va surgir et elle va pas forcément être la plus belle, la plus intéressante du monde, mais cette personne-là, vous allez lui prêter toutes les qualités du monde. Et ça m'a parlé parce que ado, j'étais comme ça. J'ai désespérément aimé des femmes qui, évidemment, ne voulaient pas de moi, etc.
Oui, elle incarnait un idéal, quelque chose de...
Voilà. Et les coachs m'ont permis, avec Starting notamment, de me dire « Eh, ça arrive et c'est pas grave, c'est humain. Bon, faut, voilà, travaille sur autre chose et tu verras, ça ira mieux. » Mais j'étais quand même critique. Et... je suis rentré dans une période où j'étais un peu plus à l'aise, où je prenais plus l'initiative, où j'y allais, quoi. Où j'y allais, et ça marchait très bien. Sauf que j'étais pas toujours éthique. Par exemple, je fréquentais quelqu'un et puis poup, je fréquentais quelqu'un à côté. Pour moi, j'avais l'impression les deux me plaisaient, j'étais bien avec, il n'y avait pas de problème.
Mais tu le disais pas.
Mais je le disais pas.
Okay.
Je le disais pas. Il y a des fois, moi, mon côté anxieux et comme j'ai une bonne mémoire, rétrospectivement, je revois les trucs et je me dis, est-ce que j'ai été problématique ? Alors, j'en discutais avec certaines à qui je suis encore ami, qui m'ont dit, tout, il n'y a pas de problème, tu as été très respectueux.
Tu as eu besoin de ces validations ?
Ouais. Au moment de MeToo, forcément, alors moi, je suis en sociologie, je suis bénévole dans une assoce LGBT, féministe, etc. au Canada. Je suis très engagé dans ces milieux-là.
Tu as eu besoin, quoi.
Et je baigne dedans en permanence. Une copine ultra féministe me disait, je ne sais pas comment tu fais parce que moi, j'ai besoin des fois de sortir de ça.
On parle du burn-out militant.
Ouais. Mais ce n'est même pas que du burn-out militant. C'est un burn-out relationnel. Enfin, de me dire, OK, de me questionner en permanence. De me dire, est-ce que là, c'est correct ? Est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que je ne vais pas trop loin, etc.
Ça doit être épuisant.
C'est épuisant. c'est épuisant. Et au moment de MeToo, j'ai contacté une amie qui me plaisait, avec qui on était ensemble depuis le CM2. Et elle était venue manger un soir à la maison. Comme elle avait un peu bu, elle devait prendre la voiture. Je dis, reste dormir à la maison sans arrière-pensée. Et j'ai cru qu'il y avait des signes positifs. Donc on s'est retrouvés dans le lit. J'ai tenté le coup. On s'est embrassés. Je la déshabille. J'arrive entre ses jambes. Mais elle me fait non.
Okay.
Et je lui dis, t'es sûr, machin? Oui, voilà. Et je l'ai contacté quand même au moment de MeToo pour lui dire. Est-ce que j'ai été trop loin? Tu m'avais pas explicitement dit que c'était bon. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop loin. Si j'étais trop loin, je m'en excuse. Et elle m'a dit non, t'inquiète pas, il y a pas de problème avec ça.
Oui.
Et
le consentement, on peut le dire, c'est quand on dit non à tout moment quand on veut.
À tout moment, mais il y a des fois où. Ou c'est même moi à l'époque c'était questionnant, je me disais j'allais vers des femmes, tu les écoutes, tu fais waouh, c'est tellement intéressant ce que tu me racontes, alors qu'en fait dans ta tête t'es là désolé pour l'expression hein, je te baisse quand quoi. Et ça marchait. Je disais à ce moment-là, mais merde, ça devrait pas fonctionner comme ça. Tu sais mon côté gentil, tu vois, genre, et je me disais mais intérieurement des fois je me faisais des dialogues intérieurs en me disant mais putain, mais je te traite tellement mal, là je suis là à faire ouais d'accord si tu veux, genre comment quelqu'un m'intéresse, je lui dis, on en parle, et puis si c'est pas réciproque, fine. On voilà, bah ça n'empêche rien.
Mais le small talk auquel tu crois pas, t'as...
Mais j'aime bien le badinage, j'aime bien le small talk, mais à un moment tu le sens aussi, il y a le truc, mais il y a des fois où faire semblant, faire le pan, je n'aime pas faire le pan. Montrer, regarde, c'est moi qui. Alors là, ça me trigger, mais de fou, quand je suis à une soirée, qu'il y a un autre mec qui va être intéressé par la femme dont je suis intéressé aussi, et où ça va être le concours de bite.
Ouais, le combat de coq,
ouais, voilà, le combat de coq.
Ça marche aussi.
Ouais. Hey.
N'hésite pas, parce qu'il y a une blague autour du. Bon.
Mais voilà, et alors là, ça me. Parce que là, je déteste la compétition en
c'est quoi ton rapport avec les hommes, justement?
Bonne question. Je ne sais pas. Je me suis jamais trop interrogé là-dessus. J'ai toujours eu plus d'amis femmes. J'ai jamais aimé les amitiés viriles. Tu vois, j'ai le sport, j'aime bien le sport, mais tout ce qui est regarde, machin, je suis un bonhomme, ça m'a toujours gonflé. Mes meilleurs amis hommes sont des gars sensibles, quoi. Sont des mecs intelligents, sont des mecs avec qui on peut discuter de tout un tas de sujets, etc. Voilà, mais j'ai apprécié aussi être au contact d'hommes plus séducteurs, plus. Voilà, qu'on la tchatche, etc. Moi. Même chez les femmes, j'aime les gens ouverts, les gens curieux, les gens souples dans leur manière d'aborder les relations. Genre, on parle beaucoup des amitiés viriles et que l'amitié masculine, c'est le lieu de la reproduction du patriarcat. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, en fait, les hommes, on est les rois partout, on est chez nous nulle part, parce que tu as toujours ce masque de masculinité que tu es obligé de porter. Moi, ado, étant sensible, j'ai eu le droit à « Ah ouais, t'es pédé en fait ?» Bah non. Donc au bout d'un moment, tu viens te questionner sur « Est-ce que je suis gay ?»
Est-ce
que...
puis t'avais eu cette histoire avec ton pote aussi, donc oui. Je pense que ça peut-être... Mais
alors moi non, c'était zéro questionnement à ce moment-là. Okay. C'était « C'est mon pote, ça fait du bien, voilà. »
T'as jamais douté sur ton orientation?
Non, j'ai jamais douté sur mon orientation. Beaucoup d'hommes ne savent pas faire dans les relations aux autres et dans leurs relations avec les femmes. Et moi, je le voyais au collège, quand tu ne sais pas faire, on dit on ne naît pas femme, on le devient, mais on ne naît pas plus homme, on le devient. Mais parce qu'à un moment, j'ai pu, alors ça n'excuse rien, hein, attention, des comportements limites que j'ai pu avoir, zone grise sur le consentement, même si encore une fois, le consentement, une relation sexuelle, ça ne se consent pas, ça se désire. Il va falloir arrêter de parler de consentement dans la sexualité, parce que l'homme propose, la femme dispose, ben, on est dans le consentement, mais c'est pas féministe du tout, hein.
Et qu'un toi, tu recalibrerais une on demande pas le consentement, on valide le désir.
Voilà, Le désir, c'est un mouvement vers l'autre. C'est l'autre. Voilà. Moi, j'ai du désir pour énormément de gens. Je peux me balader dans la rue et désirer du monde, voir. Je pense qu'on peut faire des rencontres dans la rue, bien mais sûr. Qu'il faut un contexte vraiment ultra précis pour pouvoir se rencontrer. Ça peut être, voilà. Enfin, bref, je peux, mais, et donc là, les coachs m'ont appris ça. Certains, pas tous. Il y en a qui sont très problématiques. Il y a des articles, tu fais, non, c'est pas possible.
Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi la virilité, David?
La virilité. Je me suis plus interrogé sur les rapports entre les gens que sur ma propre virilité. Je pense qu'il y a une histoire de confiance, de sérénité peut-être dans la virilité. Il y a, mais c'est pas facile parce que il y a eu toutes ces années ce que j'appelle mon âge d'or où j'ai multiplié les partenaires, etc. Ce qui est très cool. Enfin, moi, je suis ni pour le couple ni pour le plan cul.
Ça, c'était dans, à quelle période?
Entre 21 et 27 ans.
D'accord.
Voilà. Âge d'or, parce que pour moi, les choses me semblaient simples. Je rencontrais des gens, on se fréquentait. Il n'y avait pas forcément... Certaines, ça a été du couple, d'autres non. D'autres, on a été en couple sans se le dire. Mais en fait, on s'aimait beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé ça, cette
Donc
période-là.
Donc, tu as expérimenté plusieurs types de relations.
C'est ça.
D'accord.
Et puis après, bon, je me suis mis en couple longue durée, on pourrait y revenir après.
Ça, c'était la relation qui a été toxique pour
ouais,
toi.
Ouais, voilà. Okay. Puis j'ai découvert aussi à ce moment-là, à 25 ans, à peu près 24-25 ans, les relations plurielles.
D'accord.
Polyamour, libertinage, les couples libres, pour simplifier. Et voilà. Et là, ça fait 2 ans que je me suis séparé.
De cette relation-là, donc tu seras resté
toxique,
avec elle 4 ans.
On est resté ensemble 4 ans. Et il y a des jours où je suis fatigué d'être un homme. Où je suis fatigué de devoir toujours être dans le côté actif, dans le côté... En fait, je me rends compte, à 20 ans, on te dit vulve, on te dit sein, t'as une érection, pour 4 heures, c'est parti, quoi. En vieillissant, je me rends compte que, j'ai 34 ans, hein, je suis pas non plus, mais que c'est moins automatique. Et que dans ma sexualité, en fait, je me suis rendu compte c'était difficile de lâcher prise. Il y a des choses qui viennent de moi, mais il y a aussi des choses quand... constamment, t'es là à dire, ok, alors, est-ce que là, j'ai bien reçu son consentement? Est-ce que là, c'est ok pour elle? Ah, bon, j'aime la pénétration, je trouve ça cool, il n'y a pas que ça, faut pas que ça tourne autour
mais
que ça, la sexualité,
mais
j'aime
ça,
la pénétration, voilà. Mais oui, mais quand je suis dans des milieux féminins, je me dis toujours, les poils, pendant longtemps, je me suis dit, ah, mais c'est pas bien, c'est horrible, c'est le patriarcat, c'est la société viriliste, hétérosexuelle, tout ce que tu veux.
Juste kiffer aussi.
Fallu du temps pour... déconstruire la déconstruction, tu en vois. Je déteste le mot déconstruction, parce que je trouve que ça veut rien dire. Je préfère dire questionner, parce que si tu déconstruis, à un moment, il faut reconstruire. Et si tu reconstruis avec les mêmes pierres, mais différemment, mais toujours mal, si la pierre, elle est mauvaise, voilà. Donc, je préfère dire questionner. Mais à un moment, je me dis, quand je dois faire attention au consentement de l'autre, quand je pénètre l'autre et que je suis là, oh merde, je vais jouir vite. Je parlais de ma première relation tout à l'heure, la première fois qu'on a fait ça dans un lit. Moi, j'avais pas l'impression que ça faisait 2 heures que j'étais en elle. Et à un moment, elle m'a dit, t'as terminé? Et là, ça a niqué 15 ans de ma sexualité. Ça me la nique encore aujourd'hui parce que je me dis, je prends trop de temps à venir, à éjaculer.
T'as le problème inverse.
Et j'ai le problème inverse.
Garçon.
Donc, maintenant, quand je me dis, faut pas que t'éjacules trop vite, mais faut pas que t'éjacules non plus dans 2 heures parce que les femmes, j'ai discuté avec plein de copines qui me disent, au bout d'un moment, ça fait mal. Donc, t'es là, ok, alors, mais là, elle a pas l'air d'avoir joui. Donc, qu'est-ce que tu...
En fait, t'arrêtes jamais, quoi.
Comment tu veux lâcher prise dans genre de cas?
Justement, j'allais te demander, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu lâches prise?
Que certaines femmes prennent l'initiative, que des fois, j'ai une copine m'avait fait ça, tu vois, j'étais en train de travailler, elle arrive, elle tourne mon siège de bureau, elle me baisse mon pantalon et c'est parti. Et elle m'a fait une fellation.
T'as pas eu le temps de réfléchir?
Et j'ai pas le temps de réfléchir, et genre, trop cool, et sur le moment, j'étais là, oh putain, c'est pas bien, parce que les femmes, elles ont besoin de préliminaires, on t'a dit que machin, et elle était, ultra contente.
Bien sûr, parce que le contexte fait aussi, la spontanéité aussi.
Ouais, et avec MeToo, avec Balance ton porc, je pense que c'est bien, c'est évidemment bien, c'est même pas je pense, c'est évident qu'on doit s'interroger sur... notre masculinité, sur le rapport aux autres, sur les femmes, ce qu'on fait aux femmes, etc., les violences faites aux femmes, etc. Toutefois, moi, je peux faire que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est aussi qu'est-ce qu'on nous demande à nous, les hommes. Et je ne remets pas en question les violences faites aux femmes, pas du tout. Je fais partie d'un groupe de recherche au Canada sur les violences conjugales. Il y a des études tous les 5 ans au Canada sur les violences en général. Et la dernière étude qui date de 2017, et j'ai participé à une conférence, j'ai assisté, c'était sur les violences conjugales au masculin, subies par des hommes. Les hommes au Canada sont 3 fois plus nombreux que les femmes à déclarer des voies de fait, des coups légers, violences psychologiques, etc. L'auteur du rapport, enfin le rapporteur en tout cas, disait, il n'y a pas à tortiller, à un moment, il ne faut pas déconner, les violences les plus graves, les mortes, ce sont des femmes. Ce sont les femmes qui subissent les violences les plus graves, là-dessus, déconnez pas. Mais...
On ne peut pas taire.
Voilà, 3 fois plus nombreux. Et quand j'ai participé à cette conférence, dans ma relation toxique, là, je voyais les cases se cocher les unes après les autres de « Ah ouais, toi tu vis ça aussi. Ah oui. Ah ouais, non, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. »
Et c'est pas quelque chose que tu avais identifié ?
Je disais pas violence. Puis je me disais, bah, moi aussi j'ai fait de la merde dans cette relation, je l'ai trompé, Voilà, mais... Et donc la culpabilité a pris le dessus, et puis, enfin bref... Dynamique toxique. Elle vient d'une famille très violente, avec beaucoup de violence, etc.
Des reproductions de schéma.
Personne très angoissée, qui a peur de la mort. Et donc, quand. Voilà, j'avais 9 ans de plus qu'elle, donc je me dis, bah, j'ai une responsabilité quand même là-dessus. La sexualité, elle le voyait comme un moyen thermomètre du couple. Donc, quand la dernière année de relation, je ne me masturbais plus pour avoir envie. De sexe pour...
Parce que tu n'avais plus envie avec elle.
Parce que j'avais plus envie, mais que comme il y avait une telle pression, une telle
attente
de son côté, que elle, pour elle, c'était 1 jour sur 2 minimum. Et que je lui disais, mais non, il n'y a pas de règle, on peut le faire une fois par semaine et le faire bien. Et voilà, puis tu sais, la période lapin, les 6 premiers mois de relation où tu te sautes dessus en permanence, je dis, c'est difficile aussi à un moment de tenir ce rythme-là.
Oui,
quoi.
Tout le monde ne passe pas par là. Et puis il y a des couples très heureux qui vont avoir un rapport sexuel par trimestre et d'autres qui vont faire l'amour 2 fois par semaine au bout de 10 ans de relation. Enfin, c'est tellement.
C'est ça.
Tellement propre à chacun que. Donc elle, c'était vraiment le curseur du. Du bien-être de votre couple avec cette pression, du coup.
C'est ça. Et donc, voilà, on a vécu 3 ans ensemble sur 4 ans de relation. J'ai vécu 3 ans avec mon portable greffé à ma peau, quoi. Enfin, les rares fois où je l'ai laissé, elle fouillait dedans. Alors, il y a eu des erreurs de ma part parce qu'on a libertiné ensemble. Je pense qu'elle n'était pas prête.
C'était ta dynamique, ta proposition ?
Elles savent, moi je lui en ai parlé, je dis j'ai déjà fait ça, je trouve ça fun.
Oui, parce que
tu avais
découvert ça au milieu de la vingtaine.
Voilà.
Et donc tu l'amènes dans ton couple.
Voilà, je lui dis écoute, si jamais ça t'intéresse un jour, écoute, pourquoi pas. On avait été en sauna. Un jour j'ai invité 2 hommes à la maison pour elle, en lui expliquant bien que c'est. Tu dis stop à n'importe quel moment. Il y a quelque chose qui te déplaît, tu le dis, etc. Donc ça, voilà.
Je fais un petit calcul mental. Toi, à ce moment-là, tu as 28, 29 ans.
27 ans.
Donc, elle est très jeune.
Elle est très jeune. Elle est très jeune. Elle a adoré l'expérience sur le moment, en me disant, mais merci pour ce beau cadeau, c'était génial.
Elle a 18
ans. Elle avait 19 à ce moment-là, ouais, c'est ça, 19. Et donc, voilà. Et je n'ai pas été en capacité de voir ça. Parce qu'après, moi, je me dis, cool, je suis enfin tombé sur quelqu'un qui comprend ça, qui ne me prend pas pour un dingue, etc. Et je me suis emballé. Et je n'ai pas été capable de voir qu'elle ne voulait plus faire ça.
Le plan avec les deux gars, c'était tous ensemble ?
Tous ensemble.
D'accord.
On était là pour elle.
D'accord. Ah oui, tu fais partie des 2 hommes.
Non, on était 3 hommes pour elle. Et elle a adoré. Elle m'a dit merci. Je me suis jamais sentie aussi femme. C'était incroyable. Okay. Voilà.
Tu penses que son jeune âge a joué là-dessus ?
Je pense qu'elle avait envie. Je pense que je l'impressionnais. Que j'étais le mec.
Côté un peu mentor, pygmalion.
Voilà. Moi, j'aime bien. J'aime ça, tu vois, j'aime ça, mais il faut que ce soit donnant-donnant, tu vois, avec des femmes plus jeunes, que j'aime.
Tu me disais ça tout à l'heure, en avant d'enregistrer, tu me disais que toi, la différence d'âge n'était pas un problème.
Voilà, avec les femmes plus jeunes, ce que j'aime, c'est ce côté on bouffe la vie, c'est tout fou, c'est tout flamme, etc. Et donc, ok, je te donne ma jeunesse, je te donne cette énergie-là, qui est un carburant incroyable, et à la fois, moi, je te tire vers le haut en mode, ok, c'était donnant-donnant.
Il y a une forme d'ascendance, quand même.
Il y avait une forme d'ascendance, bien sûr, mais c'est pour ça que là, il faut être éthique, il faut avoir une grosse responsabilité, faire plus attention, maintenant, je fais
beaucoup. Tu parlerais de rapport de domination ?
Non, de pouvoir.
D'accord.
De pouvoir, parce qu'on confond souvent domination et pouvoir. Okay. Domination, c'est vraiment l'autre ne sait même pas qu'elle est dominée ou le sait mais ne peut rien faire. j'essaye au mieux de rééquilibrer le truc, de laisser à la personne plus jeune le champ libre, l'ouvrir le champ des possibilités et de dire je te fais confiance, t'es une grande personne, tu peux choisir.
Le libertinage pour nos auditeurs et auditrices, c'est quoi la différence? Enfin, c'est comment tu le définis toi? Parce que selon les gens, c'est pas toujours la même chose.
C'est la sexualité à plusieurs.
Donc avec ta partenaire?
Avec ma partenaire. Moi, j'ai plutôt eu des expériences. J'ai été plutôt invité par des couples.
D'accord.
Je suis la troisième roue du carrosse. ou la cinquième, je ne sais plus. Enfin bref, ça dépend des possibilités. Il y a beaucoup de carrosses. C'est la complicité. Moi, ce n'est pas tant le sexe à plusieurs qui me fait kiffer que c'est cette espèce d'énergie. Moi, j'ai découvert ça avec des amis. Et je me souviens de soirées de rire, beaucoup de rire, on rigole beaucoup. Il y a un couple avec qui je l'avais fait, le mec m'a dit à la fin, on a passé plus de temps à discuter, à rigoler qu'à s'envoyer en l'air. J'ai dit, mais justement, c'était drôle, c'était fun.
Ça fait quoi ce que tu dis sur les relations et les autres, quoi, que tu aimes passer du temps avec l'humain?
C'est ça, il y a de ça, mais le gros mais, les relations plurielles, appelons ça comme ça, que ce soit les sexualités à plusieurs, les relations amoureuses plurielles, ou le couple libre par exemple, ou ouvert, peu importe, c'est des choses qui me parlent. Mm-hmm. C'est difficile à décrire, mais c'est quelque chose qui vibre en moi. Couple avec qui j'ai fait des plans à trois, quand tu vois que tu es en train de coucher avec la madame du couple et que tu as son mec qui la regarde et tu vois leur complicité, c'est intégrer cette intimité-là, moi, qui, oui, va m'exciter, mais qui aussi, je vais trouver ça beau. Et c'est difficile à décrire quand ça me parle. Néanmoins, je ne me dis pas polyamoureux, je ne me dis pas libertin, je ne me dis pas en couple ouvert ou libre. Pour moi, les relations sont faites de possibilités, au pluriel. C'est pour ça que la sexualité avec un homme, je l'ai fait une fois, à 24 ans, en retournant à la fac, j'étais sur un site libertin, il y avait un homme qui se disait bi, qui proposait d'initier des hommes. Je me dis, là, ça fait 10 ans que j'ai pas eu de sexe avec un homme, maintenant que ma sexualité est installée, je vais voir avec un homme. C'était fun, j'étais un peu gêné, j'ai aimé, mais je vais pas pour autant me dire bi.
T'as pas de désir pour les hommes?
Alors, si, quand ça fait longtemps que j'ai pas eu de sexualité, avec une femme, quand ça fait longtemps, je me dis, j'irais bien. Mais en fait, moi, la sexualité avec un homme, dans un cadre de sexe à plusieurs, en fait...
T'as un rapport avec un homme?
Ouais. Y a un couple avec qui le mec me dit, je suis pas bi, mais dans un cadre comme ça. Je dis, t'es hétéroflexible. Et là, il ouvre de grands yeux. Mais tellement, j'avais jamais pensé à ça. Et on a eu beaucoup de sexe, lui et moi, pendant la soirée, avec sa copine. On s'est fait des fellations. À un moment, il me dit, la sodomie, t'as déjà tenté? Je lui dis, écoute, pas vraiment. Dis ce que ça te dirait que je t'assure toi. J'écoute, je le sens super bien. On essaye. C'est pas passé, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé
T'étais
ça trop
bien
cool.
Avec lui, quoi.
Mais ça me permet, en fait, ça me permet aussi de me mettre à la place de mes partenaires, eux, de me dire, ah donc quand une femme me fait une fellation, c'est ça qu'elle sent, c'est ça le truc. Le problème, c'est que pour des gens dans la norme, dire des hétéros.
Ouais, j'allais te poser cette question après.
Pour des gens qui sont hétéros, je passe pour le mec ultra queer, ultra déconstruit, etc. Et pour des gens queer, je vais être le mec blanc, cis, ce que je suis, hétéro, voilà. Et je suis dans un entre-deux d'entre-deux. Qui plus est, les corps queer ne m'attirent pas. Des femmes qui vont se laisser pousser les poils sous les bras, des femmes masculines ne vont pas forcément m'attirer. Philosophiquement, je trouve ça incroyable, je suis complètement en accord.
Pourquoi tu as choisi de faire du burlesque?
Et ben justement, parce que je fais un doctorat, donc c'est solitaire comme épreuve, c'est passionnant, je ne me vois pas faire autre chose, mais c'est solitaire, donc je passe mes journées devant mon ordinateur. Ma relation toxique, on était aux antipodes l'un de l'autre, que ça fait 2 ans que j'ai du mal à rencontrer du monde, que justement les corps queer m'attirent pas, parce que là où j'habite, y a des gens qui, y a des soirées polybertines, donc c'est polyamoureux libertin, j'ai fait mais c'est fantastique, j'adore.
Wow.
Au début j'étais là mais c'est totalement ce que je cherche depuis des années, puis j'ai fait une soirée et les gens me plaisaient pas du tout. je trouvais pas sexy, pas à mon goût, quoi. Après, voilà, c'est leur corps et je ne fais pas de jugement de valeur sur qui ces personnes sont. Mais
en tout cas, ça ne t'a pas excité.
Ça m'a pas excité, ça m'a pas attiré. Pareil, la bisexualité, ma bisexualité, elle est... En fait, j'en parlais avec une copine de mon assos, je lui disais, mais en fait, je pense que je suis attiré plus par des mecs qui vont être dans la même recherche que moi. On va dire, pour caricaturer, des mecs plutôt hétéros, mais qui sont pas contre...
Hétéroflexibles.
Voilà, on va dire des hommes hétéroflexibles, si on doit mettre une étiquette. Oui. Mais voilà. Et en fait, je me rendais compte que je fréquentais des gens, des personnes, des femmes incroyables, adorables, etc., mais qu'elles me plaisaient pas tant que ça. J'ai fréquenté les deux dernières personnes qui m'ont marqué dans mes fréquentations. J'en viens au burlesque, mais je pense que c'est important de rappeler ce contexte-là. Il y en a une, on a commencé à se fréquenter. Elle avait, pareil, pas d'étiquette. Voilà, moi je dis, je suis content de te voir, ça me suffit. Elle avait vécu des violences dans ses relations précédentes. Si j'approchais ma main de son visage pour lui faire une caresse, pour l'attirer, pour l'embrasser, elle avait un mouvement de recul et elle m'attrapait la main. C'est pas très bon signe en général, ouais. Ça. Et bon, on s'est mal compris, mais moi je l'ai pris comme ça à ce moment-là. Elle m'a plus ou moins quitté en me disant, ta douceur est un problème. Moi, à l'époque où j'étais plus, où ça marchait mieux avec les femmes, j'avais l'impression d'être le dernier des salauds, d'être manipulateur, mais d'être dans cette masculinité qu'on valorise et qu'elle est bien. Donc je lui ai dit, mais regarde où ça t'a mené. Elle me dit, j'ai l'habitude des relations passionnées. Je lui ai dit, mais regarde où ça t'a mené. Elle l'a très mal pris. Je lui ai dit, mais c'est pas pour dire, ouais, enfin bien fait, mais non, c'était pour dire, en gros, un peu de douceur ne ferait pas de mal.
Peut-être qu'elle l'a mal pris parce qu'elle n'était pas prête à l'entendre.
Voilà. Et ça, alors, on a passé un an sans se donner de nouvelles. Et il y a 2 mois, elle m'a recontacté en disant, tu m'as manqué, j'ai envie de te revoir. Et bon, elle a un copain maintenant et elle est très heureuse et c'est cool. Et on a pu en parler.
Elle s'est excusée.
Elle m'a dit, j'ai été très maladroite, c'est pas ce que je voulais dire. Mais voilà. Donc, et l'autre que j'ai fréquenté m'a dit, je ne veux pas être en couple. Ok, explique-moi. Elle me dit, je ne veux pas avoir l'obligation de faire des choses avec une personne parce qu'on est en couple. Obligation de se voir, obligation de sortir, obligation de dormir ensemble, etc. Je lui dis, pas de problème. Je lui dis, écoute, moi, et c'est mes relations comme aujourd'hui se passent comme ça, depuis même longtemps, c'est écoute, alors, il y a une évolution. Mais au début, c'était, tu rencontres une femme, tu as envie de coucher avec, vas-y. Je ne suis pas fait physiquement pareil qu'une femme et inversement, donc va coucher avec. Au bout d'un moment, je me suis dit, au bout de plusieurs années, je me suis dit, mais... pourquoi pas la laisser coucher avec des hommes si elle a envie. Contexte, elle rencontre quelqu'un, c'est fun. Écoute, va t'amuser chérie, c'est cool. Et donc moi c'est, ok, tu couches avec qui tu veux. Pas de problème. Moi, en fait, parce que ça pose la question, c'est quoi un couple? Pour moi, un couple, c'est un moment privilégié avec une personne. C'est sentir que j'existe dans le regard de l'autre, c'est avoir nos petits moments, notre petite intimité. Ce que j'ai dit à tous les couples avec qui j'ai eu des plans à trois, je leur ai dit... Là, on a couché ensemble toute la soirée. Je vous parie ce que vous voulez, que vous rentrez chez vous, vous refaites du sexe. Pourquoi ? Parce que vous avez ouvert votre bulle d'intimité. Il est bien de la refermer et de vous dire pourquoi on est ensemble. Et donc, voilà, de refaire ce sexe à deux. Là, c'était cool, on était trois, c'était fun.
Le couple, c'est pas la construction pour toi ?
Pas tant que ça. Parce que...
Les projets,
pourquoi pas, mais ça rime pas avec exclusivité. Moi, je rapproche beaucoup plus et de plus en plus de ça avec l'amitié. Mmh. On confond aussi beaucoup fidélité et exclusivité. Je suis quelqu'un de fidèle. Genre, mes amis, c'est important. Même des femmes que j'ai connues qu'une partie très courte de ma vie, je les revois, il y a toujours un petit... Ouais. Elles ont une petite partie de moi.
Une loyauté.
Comme l'épisode 3 de Dans the Verge, où il dit, je les ai aimées, toutes ces femmes-là. Oh oui, je les ai aimées, pas romantique, mais on a eu une intimité. J'en reviens à cette personne que je fréquentais, je lui dis, écoute, tu couches avec qui tu veux. Je sais que tes amis sont importants, donc fais des fiestas avec tes amis. Je veux juste mon petit moment avec toi de temps en temps. Et quand on est ensemble, voilà. On fait du sexe, évidemment, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a un soir où elle était triste. Et je lui dis, OK, je peux venir chez toi, je ramène de quoi cuisiner. Et je lui ai fait du tupperware pour 3 jours. Elle était triste, je lui ai fait un câlin. On s'est maté un film.
C'est le couple pour toi.
Elle s'est endormie et voilà. Et puis
oui, c'est comme un bon ami.
Voilà, je l'ai réveillée à la fin. Je lui ai dit, tu veux que je reste dormir ou est-ce que tu préfères que je reparte? Je préfère que tu repartes. Parce que moi, pour moi, ce genre de personne, je serai là, quoi qu'il arrive. mon ami me dit une personne avec qui je couche, avec qui j'ai de la tendresse, etc., elle me contacte, j'ai un problème, ok, j'arrive.
Okay.
J'ai une amie.
Oui, donc c'est ça, c'est la loyauté, quoi.
Ouais. J'ai une amie, il y a un an et demi à peu près, elle sortait d'une très longue relation, plus de 10 ans. Elle n'a pas trop confiance en elle, elle souffre beaucoup de grossophobie sur les applis, etc. Et voilà, puis on se faisait un chalet au Canada et on a parlé de ça. Je lui ai dit, écoute, t'es mon ami, t'as envie de... Ça faisait plus d'un an qu'elle n'avait pas eu de sexualité. Je lui ai dit, écoute, si tu veux. Tu veux coucher, tu veux qu'on couche ensemble, pas de problème. Ça te permet de te remettre un peu sur les rails, ça te permet de
te rassurer.
Voilà, t'es ma pote, bien, moi, il n'y a pas de problème, pas de. Ah, ok, bah, je vais réfléchir, puis on va chacun dans notre chambre. Puis 10 minutes après, je reçois un message. tu veux pas venir? Bah, ok, j'arrive.
T'as eu du désir?
Ouais, bien sûr. Pas du désir romantico, passionné, etc. Mais je rendais service à ma pote, c'était cool, c'était fun.
Est-ce que tes amis sont là pour toi comme tu es là pour eux?
Oui, mes amis, oui. Mes potes, non. Mes amis,
bien sûr,
oui.
C'est la différence
mes
d'ailleurs.
Amis, oui.
On repique sur le burlesque, pourquoi?
Et on repique sur le burlesque. Ça s'est très mal passé dans cette relation-là.
Celle avec qui tu avais ouvert le couple?
Alors non, on n'avait pas ouvert, on se fréquentait,
d'accord,
mais pas en couple. Mais elle m'a dit, mais si on n'a plus envie de se fréquenter, on se le dit,
c'est
etc.
C'est qu'il ne voulait pas de couple.
Voilà, qu'il ne voulait pas de couple, voilà, on se le dit, etc. Bon. Et puis en fait, elle a laissé crever la relation. Alors, ce qu'elle fait est très correct. C'est-à-dire, elle prend un homme. Elle le garde un mois ou deux quand c'est dans la phase de passion. Puis après, elle se lasse et elle reprend un autre. Et voilà, il n'y a pas de mal à ça. Je ne critique pas ça, il n'y a pas de souci. Mais tu peux le faire d'une bonne manière et dire à la personne, bah, écoute, voilà, il faudrait qu'on parle. Je n'ai plus trop envie de te fréquenter de manière intime. Voilà, on discute. Ce qu'elle n'a pas fait, elle a laissé crever le truc. Et puis, je lui ai dit...
Sans te donner vraiment d'explication.
Voilà. Non, non. Ah, non. Puis elle m'a dit, je n'ai pas d'explication à te donner. Je lui ai dit... Absolument, tu n'as pas d'explication à me donner.
Mais c'est pas très
correct. Mais à un moment, voilà, on crée de l'intimité. Moi, bah, faire des créneaux dans une impasse, c'est cool, mais à un moment, bah,
oui.
Il se crée quelque chose, quoi. Il se crée de l'intimité.
Oui,
donc...
Et puis, une forme de quotidien, une forme de.
D'intimité. Moi, d'intimité, vraiment, je resterai là-dessus. Je refuse d'opposer amour et sexualité. Il peut y avoir du sexe sans amour et de l'amour sans sexe. Vraiment, cette opposition me gonfle. Moi, ce que je veux, c'est de l'intimité. Sentir que tu comptes pour moi. Mais ça peut être, on se voit une fois par mois, on se voit. Voilà, bref, je pourrais encore en parler pendant des heures. Voilà, donc j'étais en mode.
Ça t'a blessé.
Ça m'a blessé. Je me sens dans aucun groupe, je me sens intégré, etc. Je me dis, bon, il faudrait que je rencontre du monde. Donc qu'est-ce que je fais? De la photo, j'aime bien la photo.
C'est un peu solitaire aussi, du coup.
Oui, il y a un club photo là où j'habite. Donc, je me dis, voilà, j'adore la photo de nuit et de boudoir notamment. Je trouve ça incroyablement beau. Bon, la photo, du handball, parce que j'adore le handball, ou du burlesque. Et pourquoi le burlesque? Parce que d'une part, j'ai toujours été attiré par l'esthétique burlesque. Je trouve toujours ça classe, beau, machin, tout ce qui va avec, quoi.
C'est ultra féminin.
C'est ultra féminin. Mais ce que m'a dit un ami, il m'a dit, c'est pas les femmes qui te fascinent, c'est la féminité. Voilà, c'est un questionnement permanent là-dessus. Et là, c'est une espèce d'ultra féminité.
Bien sûr.
Mais c'est comme les travailleuses du sexe, les actrices porno, les prostituées, etc. Voilà, j'ai une tendresse, une fascination pour ces gens-là incroyable. Et pas parce qu'elles sont sexuelles, mais parce qu'à la fois, elles sont très libres. J'ai adoré... fondamentalement adoré. J'aime ce bouquin de tout mon cœur, La Maison d'Emma Becker, qui est incroyable, où elle parle du désir et des hommes d'une manière merveilleuse. Je préfère écouter elle que d'écouter d'autres féministes où c'est un peu trop tranché. Là, j'aime ce qu'elle fait. Il faut distinguer le travail du sexe de l'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle est une honte et ne devrait pas exister. Des personnes qui choisissent de faire ça ont toute ma tendresse et ma bénédiction.
Bien sûr.
Et donc, voilà, dans le burlesque, il y a une espèce... Je pense que c'est aussi pour ça que les actrices porno, par exemple, se font autant harceler. Alors, ça ne justifie rien, mais comme on les a vues nues, qu'on a été quelque part dans leur intimité, on a l'impression de les connaître, alors que non.
Elles te diront que non, ouais.
C'est une évidemment, c'est une performance. Et moi, j'ai toujours envie de savoir qui es-tu derrière, qui est cette personne.
C'est qui ton actrice porno préférée?
J'adore Sacha Grey pour le côté intellectuel, elle est belle et elle a un raisonnement incroyable. J'aime beaucoup Stoya aussi. Stoya qui a participé à Hysterical Literature sur des femmes qui lisaient des extraits de livres avec un vibromasseur entre les jambes et qui on le voyait pas, mais et qui avait des orgasmes, et Stoya des orgasmes incroyables, elle rit quand elle a un orgasme, elle a les yeux, elle a un sourire incroyable, et moi je suis
et tu regardes beaucoup de porno, toi?
Ça m'arrive,
ouais,
ça dépend des périodes. Des fois j'essaye de me faire pas des challenges, je me dis bon bah là pas de porno, je vais repartir sur la littérature érotique.
Et c'est quoi qui t'excite justement, tu regardes quoi en termes d'images?
J'ai envie de vrai en général, j'aime beaucoup le porno amateur, mais j'ai quand même une réflexion là-dessus depuis quelques temps. Enfin, je culpabilise un peu parce que qui dit porno amateur ne veut pas dire forcément porno éthique, et que des fois il y a des vidéos qui sont uploadées et qu'on ne sait pas si, est-ce que tout le monde était d'accord pour qu'elles soient uploadées.
T'as vu en France, il y a eu le scandale Jackie Michel.
Non.
Super glauque. Hein.
C'est comme le McDonald's. Une fois de temps en temps, tu fais « allez, machin, pourquoi pas », mais c'est bourratif et que c'est pas intéressant. Et donc, le burlesque, je me dis « j'ai besoin de rencontrer des gens qui me ressemblent, j'ai juste aussi envie de sortir de chez moi, j'aime l'esthétique burlesque, go ». Je ne l'ai pas fait en mode « ouais, je vais performer le genre et je vais niquer les conceptions de genre », je m'en fous complètement.
Oui, c'est pas, il n'y a pas de message politique.
Il
n'y
a pas de message politique, même si quelque part ça l'est, et c'est par capillarité qu'on va changer les choses. Hein. Quelqu'un qui va voir des photos qui dit « ah ouais, je peux le faire aussi ». Voilà, j'ai hâte d'être sur scène pour montrer « eh, regardez, je peux
le faire ».
C'est
quand que tu es sur scène ? Ton spectacle ?
Avril, mai normalement.
T'as un peu peur ou pas ?
Oui, bien sûr. Mais, parce
c'est un striptease que tu vas faire.
Un effeuillage, ouais.
Un effeuillage. Voilà, et c'est excitant ?
Alors,
parce que tu vois des meufs nues qui se trémoussent.
Non, quand j'étais dans le groupe.
Ouais.
Même si j'ai travaillé aussi dans un club libertin, donc tout ça est lié. En fait, avant que tu y sois, tu fais ouh, tu vas imaginer des trucs. Puis quand t'es dedans, en fait.
Oui, c'est comme les gens qui travaillent dans les sex shops
ou sur un
plateau de porno. Il y a quelque chose
de pro. T'es là pour faire ton boulot. Et là, ben non, parce que je performais avec elle. Donc oui. Tu arrives, bah, y en a deux, trois que je trouve très mignonnes dans la salle. Tu lances un coup d'œil. Tu fais « ah oui, elle a vraiment un beau corps, elle a vraiment un beau sein, elle est vraiment mignonne. »
Puis après, claque, ça dure sur toi,
voilà, une demi-seconde et après, tu n'es pas là pour mater. J'ai plus été troublé par le cours d'un soir où c'est le cours de groupe. Tu as neuf femmes qui font ça. Et j'ai plus été troublé quand je les voyais passer en maid sexy, en servante sexy devant moi. J'étais là.
Oui, c'est la représentation.
Ah, elles sont belles. Mais justement, sur scène, en fait, c'est des espaces pour les femmes qui sont très safe. Et je vais le dire avec beaucoup de bienveillance, parce que j'ai beaucoup de bienveillance pour ce mot-là. C'est des espaces où elles peuvent être salopes autant qu'elles veulent.
Sans avoir peur de se faire agresser.
Ah ouais, t'as 200 personnes qui hurlent parce que c'est obligatoire. Tu cries quand tu vois un spectacle du burlesque. T'as des gens qui se mettent à nu devant toi au sens propre comme au sens figuré. Donc il faut crier. Il y a des corps gros entre guillemets, des corps maigres, des corps poilus,
des corps imberbes.
Non mais qu'est-ce que être gros ou pas, voilà, c'est le débat. Mais enfin, tu parles, y a pas de débat. C'est chacun, voilà.
On est gros.
Chacune fait ce qu'il veut. Mais voilà, des corps gros, des corps mecs, des corps poilus, des corps imberbes, des corps vieux, des corps jeunes. Ouais. Et genre tout
incroyable.
Le monde trouve ça trop cool. Et puis je suis super bien accueilli parce qu'au début, oui, t'arrives, t'es le seul mec dans la salle, genre t'as un ou deux sourcils qui se lèvent en mode mais t'es qui toi? Et comme m'a dit la patronne de la salle, a dit t'es notre minorité à nous.
Pour une fois.
C'est vrai, je suis complètement la minorité, mais je suis super bien reçu. Ouais,
c'est bien d'être un peu la minorité.
Mais oui, mais comme dans ma sexualité, quand je te parlais d'hétéroflexibilité, ça m'ouvre des perspectives. Je dis pas que je vais devenir un artiste burlesque accompli, machin. Je trouve ça fun.
On n'est pas obligé de performer dans tout, hein,
voilà.
David, bien sûr.
Ça me laisse des possibilités pour rencontrer
la tête
des gens.
Peu.
Voilà, et pour me dire, oh, allez, vas-y, c'est cool. Alors, voilà, il y a une ex qui m'a fait... quand j'ai dit que je faisais du burlesque, info parmi tant d'autres, et là, en majuscule sur le message, tu vas t'habiller comme une femme. J'ai dit non.
Ah oui, gros amalgame là.
Mais oui, parce qu'elle vient d'un milieu, c'est pas du tout courant. Elle vient d'un milieu où, voilà, petite ville, petit village perdu au fin fond de la France, c'est compliqué pour elle, elle a pas ça. Voilà, elle, des spectacles de drague, de burlesque, elle ne connaît pas, elle n'en a jamais fait. Donc je lui dis, ah non, couillonne, tu confonds, ça c'est le burlesque, enfin c'est le burlesque, ça c'est les drag queens. La drag queen emprunte au burlesque, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis je lui dis, c'est fun, tu vois. Genre. Et puis elle n'a pas rebondi dessus. Et voilà, donc, Donc c'est fun, mais je le fais pas par militantisme politique, je le fais parce que c'est fun et parce que j'en ai la possibilité aussi. Je viens d'un milieu, on parle pas assez des classes sociales dans les questions de féminisme, etc. La lutte des sexes, c'est bien. La lutte des classes, c'est pas que c'est mieux, mais on oublie d'en parler. La réaction de cet ex-là, c'est normal, elle vient d'un milieu où les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. C'est très genré. À la campagne, quand j'étais ado, si on m'a taxé de pédé, c'est parce que je dérogeais, mais d'un millimètre par rapport aux règles de genre qu'on m'imposait là-bas. Là, je suis dans une grande ville canadienne, je suis dans un milieu étudiant, un milieu queer. Évidemment que j'ai la possibilité de faire ça. Par contre, le mec qui vient du fin fond du trou du cul de la campagne, il va se faire critiquer par des hommes, par des femmes.
Bien sûr.
Moi, les critiques sur ma pilosité venaient des hommes, mais venaient tout autant des femmes. Les femmes étaient tout autant problématiques que les hommes. C'est pour ça que quand j'entends après, ah bah oui, les hommes, vous êtes problématiques. Hey, oh, interroge-toi aussi. Une copine, je ne lui en veux pas, quand il y avait ces violences conjugales dans ma dernière longue relation, je n'avais pas identifié que c'en était. Et donc, je lui en parle un peu, on buvait un verre, et puis je parle un peu, ah, tu sais, elle fouille souvent dans mon téléphone. Je me suis plaint. Sa réaction, ça a été « Ah, sois un homme !» Et elle est féministe, pourtant.
Ouais. C'est quoi, justement, qu'est-ce que tu identifies comme violence conjugale ?
Alors, quand on parle de violence, on pense évidemment aux coups.
Bien sûr.
C'est les plus visibles, c'est les plus spectaculaires, c'est les plus dangereuses, c'est ce que subissent beaucoup de femmes, et ça ne devrait pas exister. Les violences, ça va être, bah, par exemple, j'avais acheté un livre sur le polyamour, pour ma thèse, puis aussi pour moi. Je travaillais à mon ordinateur, elle arrive près de mon bureau, elle prend le livre, elle, sans un mot, elle le regarde, elle lit devant, elle lit derrière, puis elle fait pff, n'importe quoi. Puis elle le balance sur ma table et elle se barre. Ça, c'est violent.
Mmh.
C'est quand on partait en voyage et que je bloquais les notifications de messages de certaines copines pour pas que ça pose problème. Moi, j'ai toujours été très proche des gens avec qui j'ai eu des relations intimes, sexuelles notamment. Et voilà, j'ai une copine des fois qui dit « Ah, j'ai fait une soirée, regarde !» Et elle m'envoie des nudes de sa soirée. Voilà. C'est cool, je trouve ça fun. Ça n'enlève rien à ma relation avec ma copine, mais je reçois un nude. Ah, c'est marrant, vas-y. Voilà. Puis, oui, bah, évidemment, je l'ai trouvée belle, mais voilà. Puis ça reste là. Et puis j'avais discuté une fois avec une personne que j'avais fréquentée intimement. Et puis... elle se trouvait, elle aimait pas, elle me disait j'aime pas mes seins, j'aime pas mon corps. Je dis écoute, entre nous, ton corps est parfait. Quand on avait couché ensemble, j'ai adoré, etc. Mon ex était tombé sur ces messages-là. Oui, comment tu discutes de ces choses-là ? Je dis elle a pas confiance en elle. Moi, dans mon logiciel, il n'y a pas de problème à lui dire qu'elle est trop belle et que j'avais adoré son corps quand on a couché ensemble.
Ça n'enlève en rien notre relation.
Ça n'enlève en rien. Pour elle, sur sa manière de voir les relations, bah voilà. Et alors là, ça avait été une crise entière de. Voilà.
Et ça, c'est violent.
J'aime la photo de nu, de boudoir, etc. Il y a un photographe que je suis sur les réseaux sociaux qui a créé un OnlyFans. Et à ce moment-là, j'ai un peu plus d'argent. Je me dis, bah.
Tu tips.
Je tips parce que c'est dans ma réflexion aussi d'essayer de payer un peu plus, mieux que je peux, pour les choses qui me plaisent. Bon, ben, je le tip. Et puis, je tip au passage une de ces modèles que j'aime beaucoup. Un soir, je me prépare à faire mon sport, puis elle arrive, elle me dit. Tu connais OnlyFans ? Et donc là, les warnings s'allument dans ma tête. Je dis oui, je connais OnlyFans. C'est quoi le principe ? Je lui explique. Ah ouais, d'accord. Je commence mon sport. Puis à un moment, elle fait et t'as un compte, toi ? Et warning, la panique. Je lui dis non, 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 j'ai pas de compte, bien sûr que non. Puis là, je la vois tirer la gueule. Elle dit tu fous pas de ma gueule, je sais que t'as un compte.
Mais c'est qu'elle elle fouillait
ton oui, ordi, ouais, mails, ah oui, oui, je changeais tous mes mots de passe, tout était verrouillé, tout était.
Quand on est là, c'est compliqué.
Voilà. Que...
Mais t'avais peur de ses réactions,
oui.
Ses colères ?
Oui, j'aime pas le conflit. C'est peut-être un défaut par moment. Des fois, bah.
T'es lâche ?
Oui, je l'ai été, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je l'ai été beaucoup et je pourrais pas dire si je le suis encore, ça, l'occasion ne s'est pas représentée.
David, qu'est-ce que tu te souhaites sur les années à venir ? Parce que là, tu es tout jeune, 34 ans, en plus tu évolues encore dans le milieu étudiant, donc ressenti 25, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, puis tu as la chance de faire très jeune, donc parfait, caméléon. Qu'est-ce que tu te souhaites là dans les années à venir ? Et surtout, j'imagine que tu vas encore évoluer parce que tu es en perpétuel questionnement. ce qui doit être épuisant, cela dit en passant. Vraiment, j'admire cette effervescence intellectuelle sur toutes ces questions. Bon, après, tu as choisi aussi la sociologie. C'est pas un hasard, j'imagine. Mais qu'est-ce que tu te souhaites ?
Alors, deux choses. Ce que je me souhaite, c'est de la sérénité, de l'apaisement. J'ai eu 20 ans et je refuse à quiconque de dire que c'est le plus bel âge de la vie, disait, je crois, c'est Paul Nizan.
Ouais. Et moi, je suis d'accord.
Ma mère m'a toujours dit que c'est 40 ans. Si elle pouvait revivre une période de sa vie, ce serait ses 40
c'est
ans.
Vrai.
De la sérénité, de pouvoir lâcher. Et ce que je nous souhaite, parce que ça me semblait important de le dire dans ce podcast. Il y a beaucoup de podcasts sur des témoignages de gens, etc. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, mon témoignage n'a aucun intérêt. C'est mon vécu. Les relations plurielles, ça me parle, mais c'est parce que la vie m'a mené sur ce terrain-là. Mon témoignage n'a pas d'intérêt. On parle beaucoup de témoignages individuels, mais il y a aussi le nous qui est important. Il y a David Le Breton, qui est anthropologue, qui disait ça, je crois, dans un article du Monde, d'aujourd'hui ou d'hier, dans Le Monde, sur...
Nous sommes le 4 janvier.
Nous sommes le 4 janvier, d'accord.
Si les gens veulent le retrouver.
Qui avait plus de discussion. Avec des amis, un jour, je les écoutais, des copines, elles parlaient de harcèlement de rue. Et à un moment, elles me disent, ouais, mais toi, tu sais pas ce que c'est que d'avoir peur dans la rue. Je leur ai dit, ok, je me suis pris, alors moi, ça arrive pas, c'est pas systématique comme peut être le harcèlement de rue pour les femmes, mais je me suis pris une tarte une fois, un mec
gratuit,
ça l'a fait rire. Oui. Puis j'ai eu l'insulte raciste qui m'est venue aux lèvres alors que je le suis pas du tout, parce que sous le coup de la violence machin, et en fait c'est le mec derrière moi qui s'est plus énervé en me disant vous les connaissez machin, non, et pendant 15 jours 3 semaines j'ai eu peur, j'arrivais à ma station, c'est bon,
t'as des traumas un peu.
Voilà. Et donc on a pu en parler là, à ce moment là la sexualité. J'aime en parler avec mes amis. Alors, des fois, je peux paraître un peu trop intense. Ou moi, je rencontre quelqu'un, si je la sens bien. Alors oui, donc, toi, t'as déjà fait ça, machin. Enfin, mais voilà, les applications de rencontres, moi, je pense ça comme des applications de rencontres.
Premier degré, les gars.
Voilà. Écoute, si on a envie de s'envoyer en l'air, pas de problème. Je suis ton homme. On en discute. Puis peut-être que j'aurais pas envie. Donc voilà. Et peut-être que t'auras pas envie.
Ça t'arrive de pas avoir envie.
Ça m'arrive de pas avoir envie. Ça m'est arrivé de simuler aussi, évidemment. Voilà, tu te dis, bon. Il n'y a rien qui va sortir, je sais pas, t'as la simulation de politesse, genre pour que l'autre soit pas vexé ou que allez, tu voilà. Il y a des fois où tu dis bon, merde, bon, bref, t'as tout un tas de trucs, tu peux...
Donc des applications de rencontres,
rencontrons des gens, quoi, rencontrons-nous. Et alors, il y a plein de gens qui disent ouais, les applis de rencontre c'est nul, d'accord, mais la question que je pose à chaque fois, où, quand et comment on se rencontre, parce que moi, je suis un doctorant en sociologie, donc l'argent, j'en ai pas. Donc, à un moment, sortir dans des bars, j'adore ça.
Oui.
Mais ça coûte cher.
Je peux pas ça tous les soirs.
Voilà. Le féminisme, c'est très bien, mais à un moment, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut parler de classe sociale, qu'il y a des endroits où tu peux pas. Mais faut qu'on se rencontre. Moi, j'ai plus eu de prise de conscience dans des discussions, avec des soirées, avec des gens qui ne me regardaient pas en levant les yeux en mode « maintenant, ce n'est pas correct de dire ça ».
Oui, ça n'avance pas le débat.
Voilà.
Hein. Tu auras peut-être influencé des gens avec ton témoignage.
Mais à un moment, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on discute, il faut qu'on refasse du collectif. Les transidentités, la non-binarité, c'est trop cool ces choses-là. Mais à un moment, je pense que les gens, on a été isolés avec la pandémie, on l'est aussi de manière économique, voilà. Les gens, moi, au bout d'un moment, je sature. Il y a des podcasts féminins, je ne peux plus les écouter.
Ouais.
J'en ai assez. J'ai juste envie de rencontrer des gens et qu'on vibre tous ensemble. Alors, ça fait très, donnons-nous la main, etc. Mais voilà, on peut se rencontrer dans la rue. On peut avoir du cul pour du cul. On peut avoir de longues relations. Tout est possible. Mais il faut qu'on discute.
Venez sur le Discord de On The Verge. Comme ça, après, on se rencontre tous ensemble.
Voilà. Non, mais c'est ça. Il faut qu'on refasse du collectif. Et voilà.
Toi.
Et ça, c'est important. Donc, je nous souhaite aussi de l'apaisement, de belles rencontres. Et des fois, on se dit « Ah, j'avais pas pensé à ça, mais ah, pourquoi pas ?» Le « pourquoi pas ?» Et voilà, tant que
mais
ça crée des relations, c'est cool.
Ce podcast-là, moi, je sais que bon, ça va faire... Les gars, on rentre dans la cinquième année. Je n'arrive même pas à y croire. Donc, ça fait plus de 4 ans maintenant que j'enregistre. Et c'est à chaque rencontre tellement intéressant. Mmh. Enfin, tu vois, quelles que soient les opinions, les orientations, les histoires, les témoignages, c'est toujours, je trouve, extrêmement nourrissant. pour la réflexion, pour l'âme aussi, parce qu'il y a des rencontres assez intenses. Et c'est ça, en fait, vraiment l'essence même de l'humanité, c'est l'échange. Quel sera le mot de la fin, mon cher David ?
Là, le mot tartiflette m'est venu en tête, mais je ne sais pas pourquoi. Mais
Ok. J'avais jamais eu celui-là.
Je pense que je commence à avoir faim. C'est pour ça. Mais aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, pour reprendre les inconnus. Voilà, non, mais merci beaucoup pour l'accueil.
Je t'en prie.
C'était un plaisir.
Merci, David. Merci pour votre écoute et merci à David d'être venu jusqu'à moi et d'avoir partagé avec autant de passion tous ces sujets. N'hésitez pas à venir en discuter sur Discord ou sur les réseaux sociaux du podcast. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous, sachant que là en plus il y a beaucoup beaucoup de sujets, donc n'hésitez pas. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode d'On the Verge.